Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Caravage, quel nom magnifique! Il est contemporain de Shakespeare et comme celui-ci, il a adossé ses figures lumineuses aux ombres de la nuit. Il est né 7 ans après la mort de Michel-Ange et il meurt alors que Rembrandt n'a que 5 ans. Ses œuvres ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'Europe des arts et c'est lui qui sonne la fin de la Renaissance. Michelangelo Merisi dit le Caravage. Avant lui, c'était Raphaël et Michel-Ange. Après lui, ce sera Georges Latour ou Rembrandt. Il est mort à 39 ans et malgré cette carrière si courte, il est le pivot d'une époque. Poussin, venu 30 ans après lui à Rome, effaré par la puissance de cette déflagration, dira de lui « Il est venu pour détruire la peinture ». C'est pour parler de cette spectaculaire comète dont la carrière, située entre 1592 et 1609, dure à peine plus de 15 ans, que je reçois aujourd'hui Pierre Curie et Isabelle Schmitt à l'occasion d'une exposition qui se tient au musée Jacquemart-André, Caravage à Rome, amis et ennemis, et il en avait beaucoup. Pierre Curie, vous êtes directeur de la Revue de l'Art et surtout conservateur du musée Jacquemart-André et donc co-commissaire de l'exposition Caravage à Rome avec Francesca Capelletti. Vous avez fait des expositions importantes, vous avez été co-commissaire pour Marie Cassatt, Rembrandt, enfin toute la belle histoire de cette aventure du musée Jacquemart-André. Vous êtes un spécialiste de l'art italien du XVIIe siècle et ça tombe bien. Cette exposition, on a l'impression qu'il y a peut-être 40 ans qu'il n'y a pas eu une grande exposition Caravage aussi, avec réunissant autant de tableaux.
Oui, vous avez raison, même un peu plus. La dernière grande exposition consacrée, qui s'appelait d'ailleurs Caravage à la peinture italienne du XVIIe siècle, c'était en 1965 au musée du Louvre. C'était une réunion de chefs-d'œuvre incroyable. Il y avait 15 Caravage, mais qui étaient entourés de...
Et cette fois-ci, vous en avez combien?
Alors, nous présentons 10 tableaux de Caravage.
Il faut peut-être ajouter les 3 du Louvre, alors, qui sont en France.
Qu'on pourra voir au même moment au Louvre, qui reste au Louvre. Et puis, le tableau de Rouen. Mais notre exposition est vraiment centrée sur la période romaine. C'est-à-dire que nous nous arrêtons en 1606, au moment où Caravage fuit Rome pour se réfugier sur les terres des Colonna d'abord, et puis ensuite, à Naples.
Caravage naît, il n'est pas à Rome, il naît où?
Alors Caravage, on le sait depuis peu de temps en fait, depuis 2007. On a découvert son acte de naissance en 2007. Il naît à Milan. Ça, maintenant, c'est certain.
Parce que j'aurais dit Caravaggio.
Alors, il y a une raison pour laquelle ce surnom lui est arrivé. Il naît à Milan le 29 septembre 1571. On a retrouvé son acte de baptême qui, justement, lui confère... Il est né le jour de la Saint-Michel. Donc, voilà, on lui donne ce prénom. Et très vite, ses parents vont s'enfuir à Caravaggio, sans doute soit en 1573, soit en 1576. Il y a des vagues de peste qui sont terribles à Milan, qui déciment la population. Et les parents vont se réfugier à Caravaggio, qui est une petite ville tout près de Bergame. Et là, il va passer toute son enfance. Et son père est un employé du marquis de Caravaggio, lui-même époux d'une Colonna, de Costanza Colonna, et qui sera sa protectrice jusqu'à la fin de sa vie. Donc on a, dès son enfance, on a un scénario qui se met en place. Et il est arrivé, en fait, à Milan à l'âge de 13-14 ans, au moment où la peste est celle-ci en tout cas, et on l'inscrit dans l'atelier du plus grand peintre de l'époque à Milan, qui est Simone Peterzano.
Et là, il y a un contexte artistique assez fort, il y a déjà des peintres ténébristes qui apparaissent, j'imagine. Est-ce qu'il est très très jeune, donc à ce moment-là, on fait des travaux secondaires, quelques fleurs, quelques feuilles, un peu de décoration, ou est-ce qu'il est déjà...
Alors, malheureusement, pour l'instant, on n'a jamais retrouvé d'œuvre milanaise de Caravage. Il a sûrement été très bien formé dans l'atelier de Peter Zano. Il a pu croiser des artistes intéressants de cette époque qui sont à Milan. Mais ce qui est déjà remarquable, c'est que chez ce maître, qui est un grand peintre fresquiste, eh bien, il n'apprend pas la fresque. Il ne peindra jamais de fresque. Et il est sans doute beaucoup plus attiré par la peinture réaliste et la nature morte. Il y avait une grande tradition de nature morte en Lombardie à cette époque-là, avec même des femmes peintres qui peignaient des natures mortes extrêmement réalistes. Une femme comme Fede Galizia, par exemple, a fait des natures mortes qui ont pu l'influencer dans sa jeunesse, pour autant qu'on extrapole un petit peu ce qu'il a peint au tout début de son séjour romain.
Alors, vous, votre aventure de l'exposition dont nous parlons aujourd'hui, elle commence à Rome. Nous avons avec nous Isabelle Schmitt. Et je dois dire, Isabelle, je suis très heureux que vous soyez là parce que j'ai reçu j'ai reçu le hors-série que Le Figaro a fait pour cette exposition. Il est remarquable. Il y a des articles absolument passionnants. C'est pas du tout une simple vulgarisation. C'est un vrai travail. On sent collectif, etc. Et vous avez écrit justement un texte qui fait allusion à cette situation particulière de Rome à cette période-là. Qu'est-ce qui s'est passé, pas seulement à Rome, mais dans ce que représente Rome par rapport à la peinture religieuse dans cette période-là?
Alors Rome est à la fois le foyer artistique par excellence en Europe, celui vers lequel convergent les artistes qui espèrent faire carrière, pour une raison assez simple, c'est que le pouvoir pontifical a décidé vraiment de redorer le blason de cette ville qui avait pas mal souffert au Moyen-Âge, qui avait été divisée, qui avait été quittée par la papauté, et puis les papes reviennent et veulent...
Et puis le fameux sac de 1527, c'était
le fameux sac, exactement, et les papes insistent à la fois pour imposer et divulguer une image triomphale de Rome et renouer avec le triomphe de l'Empire romain qui pouvait précisément attirer et imposer l'Église aussi parmi les puissances temporelles. Et puis, surtout, les papes veulent défendre la foi, puisque on est donc à la fin du XVIe siècle, et en 1517, Martin Luther a promulgué ses fameuses thèses, l'hérésie protestante déchire la chrétienté, et donc l'Église catholique, en fait, éprouve le besoin de défendre la foi, y compris dans l'art. En 1542, elle convoque le Concile de Trente, qui va durer à peu près 20 ans. Et la dernière session du Concile de Trente, en 1563, émet un décret sur les saintes images, la fabrique des saintes images, avec des critères assez précis pour exalter la foi, en touchant le cœur des fidèles et en ayant un message théologique clair. Alors Caravage vient après cela, puisqu'il arrive à la fin de ce XVIe siècle, mais forcément c'est dans cette ambiance que toute sa peinture religieuse va se développer.
Ce que vous m'expliquez, en fait, c'est que Rome, à ce moment-là, devient la mise en scène de ce qu'il faut faire dans le monde des images, pour convaincre, pour créer une émotion dévote.
Exactement,
en quelque sorte.
C'est assez passionnant de lire ce décret sur les saintes images et de constater que, même si les directions données sont très claires, finalement, la traduction artistique va être multiple. Avant de travailler ce sujet et de me plonger dans la peinture de Caravage et d'essayer de la comprendre, cette peinture religieuse qui peut nous paraître d'autant plus paradoxal qu'on connaît le côté scandaleux de sa vie, et donc on peut se poser la question de jusqu'à quel point le peintre adhérait à ce qu'il peignait. Mais donc avant de travailler ce sujet, la peinture de la contre-réforme me semblait quelque chose d'assez univoque, quelque chose qui allait dans une même direction. Or, en fait, Francesca Capelletti, co-commissaire de l'exposition, nous l'a bien expliqué, Caravage en fait se rattache à un courant de la contre-réforme qu'on surnomme la réforme catholique et qui est plus proche d'une congrégation religieuse qui est celle des oratoriens, celle de Philippe Néri, à la différence de celle des jésuites, d'Ignace de Loyola.
En fait, il y a deux orientations. Hein,
Alors, c'est assez schématique. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais en tout cas, ces deux grandes-là se distinguent vraiment très clairement. Et on entend souvent, c'est ce qui m'intéressait en fait au départ, quand j'ai commencé à travailler cette peinture religieuse, on entend souvent que Caravage, c'est le peintre des pauvres et que par là même, il subvertit la vision de la peinture de la contre-réforme qui, elle, plus triomphaliste, est portée vers la majesté, alors que lui, il peint le petit peuple. En fait, il exprime la vision très claire de Saint Philippe Néri d'évangéliser tout le monde, les plus riches, mais aussi les plus pauvres, et de rendre l'évangile accessible à tous. Et en fait, dans la peinture de Caravage, peinture religieuse souvent commandée par le cardinal Del Monte ou recommandée par lui pour le cycle, par exemple, de Saint Louis des Français, c'est exactement cette vision qui s'exprime à travers un Christ qui est bien sur terre, qui est le Fils de Dieu certes, mais qui est bien sur terre, qui s'adresse à des gens qui ont l'air de contemporains, qui sortent de la taverne. Caravage peint des pèlerins.
C'est un tableau extraordinaire. On reviendra dessus d'ailleurs tout à l'heure. C'est un tableau extrêmement important. Mais Pierre Curie, vous avez l'impression que Caravage va à Rome pour la gloire ou pour la religion ou pour apprendre. Quelle est la motivation?
On a même dit qu'il fuyait Milan parce qu'il avait déjà eu des ennuis.
Parce que c'est quelque chose que l'on va voir, effectivement. Il y a un peu de tout. C'est un film de cap et d'épée, quasiment. Ouais,
quelque part. Il est certainement très, très conscient de son talent. Quand il arrive à Rome, il peint des tableaux qui épatent tout le monde par leur réalisme, par leur perfection technique. Donc sûrement, à Milan, il avait déjà cette certitude qu'il a
sa maestria. Ouais.
En même temps, il est clair qu'en effet, comme vous venez de le dire, Rome attire, parce que Rome, c'est la capitale renouvelée de ce catholicisme triomphant. Il y a les pèlerinages aussi, il y a les fameux jubilés au début du XVIIe siècle. Donc, tout ça crée un contexte extrêmement favorable à son départ de Milan pour Rome, qui est le centre du monde artistique européen de cette époque-là.
Oui, en fait, ce qu'on aurait pu penser, c'est que les grands artistes qui vont à Rome, ils vont pour l'antique, mais en fait, si je vous entends bien, ils y vont aussi parce que l'Église a à ce moment-là une puissance de commanditaire extraordinaire.
Pensons par exemple à Rubens, qui vient à Rome en 1600. Il est attiré, bien sûr, par les collections italiennes qu'il va pouvoir voir à Mantoue, à Venise, à Gênes et bien sûr à Rome, mais pour les antiques, mais aussi pour l'actualité, pour cette création, cette créativité de l'Italie à cette époque.
C'est New York en 1950.
Oui, peut-être. Oui, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une ville qui concentre l'attention de tous les artistes et de tous les collectionneurs.
Pierre, vous parliez tout à l'heure de sa virtuosité et de ses premiers tableaux. Ses premiers tableaux, c'est des natures mortes, si je ne me trompe.
Des natures mortes, sans doute, comme cette corbeille de fruits de la Pinacothèque ambrosienne.
C'est celle qui a un fond jaune
Un fond crème.
Vous pouvez la décrire parce qu'elle est étonnante. Mais...
Oui, c'est un trompe-l'œil. En fait, cette corbeille de fruits est posée strictement orthogonalement par rapport à notre regard sur un fond tout à fait neutre, en fait. C'est un trompe-l'œil qui nous donne l'impression que cette corbeille va vraiment véritablement sortir de l'espace pictural. Elle est remplie de fruits et de feuilles qui, peut-être pour la première fois dans l'histoire de la peinture occidentale, présentent des fruits tapés, un peu pourris, et des feuilles fanées.
C'est pas une allégorie?
Non. C'est une sorte d'exercice de style.
Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cru lire qu'il fallait que cette œuvre soit placé sur un mur de la même couleur que son fond.
C'est une hypothèse qu'on a fait parfois. C'est-à-dire que c'est un peu comme le chardonneret de Karel Fabricius. C'est-à-dire que ce sont ses œuvres picturales, mais qui ont sans doute une fonction de trompe-l'œil dans un décor, mais qu'il est très très difficile de connaître aujourd'hui, bien sûr.
Alors là, nous sommes dans. C'est un rappel d'une très jolie histoire de l'Antiquité.
Oui, bien sûr. Les raisins d'appel. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette nature morte, c'est qu'elle est peinte à Rome, sans doute pour Del Monte. En tout cas, Del Monte.
Alors qui est Del Monte? Il va falloir qu'on en parle de ce Del Monte.
Cardinal.
Isabelle, vous le connaissez, vous, Del Monte?
Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, mais on m'a dit qu'il était un homme charmant.
Visiblement, c'est l'homme clé du lancement de cette fusée que sera Caravage.
Oui, absolument. C'est l'ambassadeur auprès du Saint-Siège de la famille du Grand-Duc de Toscane, pardon, et qui, du coup, est très introduit forcément à la cour pontificale, qui est un amateur d'art éclairé et qui, j'allais dire de façon irrévérencieuse, traîne pas mal chez les marchands d'art, en tout cas se tient au courant de la commande artistique et qui repère chez un marchand d'art non loin du Champ de Mars, il me semble, un tableau de Caravage et demande à rencontrer l'artiste chez qui il décèle un talent foudroyant. Et ce sera son premier grand commanditaire et son premier appui, en fait, qu'il accueille même plusieurs années chez lui.
Isabelle, je vous interromps parce que je voudrais que Pierre nous dise de quel tableau s'agissait-il.
Alors là, c'est la colle. Parce que c'est l'époque où il peint des figures, des Bacchus,
des garçons musiciens.
Les musiciens, les concerts aussi. Il peint également, vous savez, ces figures où un petit garçon se fait mordre les doigts par un crabe ou par un lézard. Et ce sont ses premiers tableaux qu'il peint dans l'atelier du cavalier d'Arpin, donc le plus grand atelier maniériste de Rome à cette époque-là. Il est spécialiste de nature morte. morte, et parallèlement à ses travaux qu'il fait pour le Cavalier d'Arpin, il crée ces figures qui ont beaucoup, beaucoup de succès.
Alors, ces petits bergers qui se font mordre, qui ressemblent à des petits Dionysos, en quelque sorte, hein, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, des petits Bacchus. Est-ce qu'on est déjà dans une peinture moralisée? Est-ce qu'il y a un sens à cela? Il m'a semblé entendre dire ou interpréter cela comme une relation au péché ou au vice, ou à la luxure, une sorte de mise en garde contre la luxure.
On peut sans doute gloser à l'infini sur le sens de ces tableaux. Par exemple, pour les petits garçons qui se font mordre, il y avait des modèles au XVIe siècle. C'est aussi la reprise d'une thématique, notamment par une femme peintre qu'il avait pu connaître, qui est Sofonisba Anguisso, là, qui vivait à Crémone à une certaine période. Mais en fait, souvent, ce sont des sujets, je dirais, extrêmement banals et bateaux qu'on a vu bien souvent avant lui, mais il les transforme, il les transfigure complètement dans une matière. Je pense au Bacchus des Offices à Florence, qui est peut-être pour la première fois la représentation mise en abîme d'un personnage jouant le rôle de Bacchus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce premier degré qu'on pouvait avoir encore à la Renaissance. Il y a déjà cette espèce d'ironie presque sur la peinture, sur le sujet, puisque le modèle est évidemment un modèle avec de la crasse sous les ongles.
Mais il est très érotisé, non ? Et déjà avec une lumière particulière. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette lumière sur les chairs ?
C'est une lumière encore très très solaire à ce moment de sa carrière, au début de cette période romaine, une lumière très claire, extrêmement naturelle, et que certains commentateurs ont comparé, et c'est très juste, je trouve, au tableau d'Ingres. Les portraits d'Ingres ont parfois cette espèce de clarté absolue, la pureté du dessin, dans une lumière très enveloppante et très très claire.
C'est un petit peu comme une perle, on a l'impression que la lumière est sous la peau, presque.
Hein. Voilà, la peinture est presque imbibée de lumière. Et c'est ce qui a frappé ses contemporains, qui ont assimilé cette première manière de Caravage à une influence de Venise. Lotto, Savoldo, Moroni, tous ces peintres de la...
Tintoret, peut-être.
Tintoret sera plus tard associé plutôt au côté clair-obscur.
Ah, d'accord. Et est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de figures au début qui sont des joueurs de lutte, par exemple. Oui. Est-ce que c'est Giorgione qui influencerait cela? Parce qu'on a ces fameux...
Ce qui est certain, c'est que la musique joue un rôle absolument fondamental dans la vie de ces grands commanditaires romains, de ces grands cardinaux ou princes romains, qui bien souvent entretiennent des orchestres, font créer des opéras, font créer des œuvres, des motets, etc. Ils sont vraiment imprégnés de musique. Et que Caravage ait peint des tableaux musicaux
Il jouait du luth lui-même. Et je crois même qu'il a été poursuivi par la police pour...
Pour tapage nocturne, si je puis le permettre.
Oui, Schmitt,
oui, exactement. C'est ça l'ogeuse dans le récit des 9 journées de la vie de Caravage par Patrick de Bézère.
Ouais.
Il nous raconte que sa logeuse a porté plainte pour tapage nocturne, je crois, en 1593.
C'était pas une sérénade.
C'était peut-être une sérénade, mais peut-être un peu avinée.
Peut-être un retour de bamboche.
Ouais. Voilà, un retour de bamboche assez bruyant.
C'est sa toute première citation devant la justice, dans un poste de police.
Pour motif musical. Mais il pratiquait apparemment assez bien la musique. Mm-hmm. Et on a un article là dans ce Figaro hors série qui s'appelle Sur un air de Madrigal, qui compare sa peinture à la musique de Monteverdi, aussi innovante dans le domaine musical que la peinture de Caravage l'est à la peinture. Mm-hmm. Puisqu'on passe avec le Madrigal à une mélodie univoque, avec des paroles sur une mélodie et non pas la polyphonie d'avant.
Oui.
Beaucoup, enfin, très mélodique, mais assez sage. Et là, c'est autre chose. Et donc, Caravage était assez averti en musique, au point aussi de citer des partitions précises dans ces tableaux.
Les deux tableaux.
De musique qui étaient joués.
On a retrouvé les partitions dont il s'agissait.
Oui.
On sait de quoi il
sont identifiées. Les deux concerts, celui de New York, que nous n'avons pas malheureusement, mais celui de Saint-Pétersbourg que nous présenterons à Paris, eh bien, sont des partitions identifiées avec des versets parfaitement connus.
Alors, vous avez choisi pour affiche ce fameux, comment dit-on, le jeune Saint-Jean-Baptiste au Bélier. Vous l'avez vu, Isabelle Schmitt?
Alors, j'ai vu l'affiche, bien sûr.
Comment vous la trouvez,
l'affiche? Je n'ai pas encore vu le tableau. Au départ, j'avoue que j'étais un peu étonnée de ce choix, parce que c'était pas le tableau qui me semblait le plus emblématique de Caravage, mais finalement, En étudiant un peu plus sa peinture, je le trouve assez représentatif.
Décrivez-le nous.
Alors, je vois un jeune garçon qui est traité peut-être... Alors là, je parle sous le contrôle d'un grand spécialiste, mais dont le corps me semble assez semblable à une beauté classique, mais dont le visage me semble beaucoup plus marqué par un côté un garçon des rues, en fait, assez populaire.
Qui dort peu, visiblement.
Qui regarde le spectateur avec un air narquois. C'est peut-être pour ça que c'est un peu déstabilisant, parce que les Saint-Jean-Baptiste, d'habitude, sont plus intériorisés, sont moins ironiques. Là où, quand même, ce tableau semble très emblématique de Caravage, c'est qu'il y a un jeu de lumière et qui signale la sensualité de ce corps qui est déjà très affirmé et qui fonctionne parfaitement.
La position du corps est une citation ou bien est-ce que c'est sans doute
une allusion plus ou moins décalé aux ignudis de la chapelle Sixtine. Hein,
Michel-Ange était il s'appelle Michelangelo, oui, Merisi, oui, le Caravage. Oui. Est-ce qu'il avait une dévotion particulière pour Michel-Ange, ou est-ce que toute l'Italie avait une dévotion extraordinaire pour Michel-Ange?
Il y a sans doute un moment où le Caravage, c'est vraiment, je dirais, coltiner l'autre Michel-Ange. C'est le moment où il peint la chapelle Gerasi à Santa Maria del Popolo. Puisque les deux tableaux, c'est-à-dire la crucifixion de Saint-Pierre et la conversion de Saül, la conversion de Saint-Paul, eh bien, ces deux tableaux sont les deux grandes fresques, les deux dernières fresques de Michel-Ange au Vatican, dans le palais du Vatican.
Donc c'est une. Donc, c'est Rome, un mano à mano, comme
voilà,
on dirait.
Et tout Rome le sait, tout amateur d'art, connaisseur d'art à Rome sait parfaitement que ce sont les deux mêmes sujets. Donc lui, il renouvelle complètement l'esthétique de cette iconographie. Alors sur ce Saint Jean-Baptiste, je dirais qu'il y a plusieurs choses troublantes. La pose, en effet, qui est très érotique, mais encore plus peut-être cet enlacement du bélier. Ne pas oublier que généralement Saint Jean-Baptiste est associé plutôt à des agneaux, des petits moutons innocents. Oui. Un bélier comme ça, c'est pas du tout innocent.
Mais vous avez, c'est une remarque qui a beaucoup de sens. En effet, moi, il n'y a pas de rapport avec le sacrifice d'Isaac. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une relation sacrificielle entre les deux.
Il a peint un magnifique sacrifice d'Isaac qui est aux Offices à Florence, qui est un tableau absolument émouvant, extrêmement vraiment sublime, où on a vraiment une sorte de mosaïque d'émotions, presque l'émotion du bélier, l'enfant qui va être sacrifié, le père perturbé et l'ange qui indique avec son doigt justement le bélier à tuer et pour épargner le fils. Je ferai pas de parallèle avec cette œuvre-là, même si on est exactement dans la même esthétique. Mais les recherches en fait sur l'iconographie religieuse de Caravage sont infinies en fait.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est une œuvre qui donne l'impression d'être tonitruante, mais qui en fait est très subtile dans l'iconographie, l'interprétation. Isabelle Schmitt, oui.
Moi, je voulais peut-être compléter sur le sacrifice d'Isaac. Peut-être que le seul point de comparaison, moi, qui me semble au-delà de l'allusion avec le bélier, c'est que le jeune Isaac à la tête de ce Saint Jean-Baptiste, on a l'impression que c'est le même modèle, mais il a un regard terrifié sur le tableau. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil que ce message tonitruant de l'ange qui vient arrêter la main d'Abraham, puisqu'en fait, le jeune Isaac, lui, n'est pas encore au courant qu'il ne veut pas être sacrifié. Et on perçoit toute la terreur dans son regard et on a l'impression même que c'est le moment que Caravage choisit de représenter. Moi, j'avoue que j'ai...
C'est un tableau qui est assez bouleversant, parce qu'effectivement, la tête
ça,
est un peu écrasée par le geste du père.
Et on a l'impression d'entendre l'enfant qui crie, un cri silencieux comme le silence des agneaux.
Il y a quelque chose qui m'intéresse, parce que vous venez de parler du silence des agneaux, c'est-à-dire du cinéma. Il y a une façon de saisir l'acmé dans le récit. Le moment le plus dramaturgique qu'en fait. Hein. Et vous ne trouvez pas qu'il a façon de dans le continuum d'un récit, de saisir la scène?
C'est vrai, ça me semble très frappant, notamment pour Julie Théoloferne, on a l'impression d'un...
Oui, c'est un flash. C'est presque plus que le cinéma ou alors la photographie, c'est-à-dire une fraction de seconde immobilisé dans l'éternel, dans cette recherche d'expression maximum des sentiments que les Italiens appellent affetti, les affections. Oui. Et en effet, dans cette décollation d'Holoferne, vous avez la terreur d'Holoferne, le dégoût de Judith, cette espèce de cruauté dégoûtée qu'elle a.
Pierre, il faut que vous nous décriviez, parce que nous ne savons pas tous que ce tableau Judith et Holoferne est un grand monstre de l'histoire de la peinture. On va écouter l'histoire dans quelques instants, mais peut-être vous pouvez déjà nous décrire la scène qui est terrible.
Alors, cette scène qui se passe sur un lit présente trois personnages. Judith, qui est en train de décapiter Holoferne. C'est justement là aussi une des grandes nouveautés provocatrices de ce tableau. Holoferne, qui hurle de douleur et qui à peine comprend ce qui lui arrive, tandis que son sang gicle littéralement sur les coussins.
L'invention du dripping.
Voilà, presque.
Comme on dirait pour Pollock. Donc, c'est plus tard.
L'expression terrorisée de douleur de Holoferne, ce dégoût un peu de cette jeune juive qui fait quelque chose qui manifestement lui déplaît, mais elle le fait avec une sorte d'indifférence et de sûreté. Elle est très sûre d'elle. Et puis, le plus terrible peut-être des trois personnages, cette vieille servante à l'extrême droite du tableau qui tend un drap pour récupérer la tête d'Holoferne et qui a une espèce de curiosité malsaine sur cette scène et d'une méchanceté extraordinaire. Et ce trio joue cette pièce de théâtre formidable sous un grand drapé rouge qui est magnifique, d'une esthétique extraordinaire et qui, d'un seul coup, place cette scène biblique dans le monde du théâtre. Vraiment, on est dans une sorte d'opéra muet et d'une violence extrême. Et en effet, c'est un tableau jalon dans l'histoire de la peinture en Europe.
Oui. Alors, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter la source, en fait, de cette peinture, qui est le fameux livre de Judith de la Bible.
Holoferne dit à Bagoas, le préposé à sa chambre et à toutes ses affaires, « Va donc convaincre la femme de chez les Hébreux, qui est auprès de toi, afin qu'elle vienne manger et boire avec nous. Car pour nous, ce serait perdre la face que de laisser passer une telle femme sans avoir eu de relation avec elle. » Bagoas sortit de chez Holoferne et se rendit chez Judith. Il lui dit « Que cette jolie esclave n'hésite pas à venir chez mon seigneur pour y être honorée en sa présence, pour boire du vin et se réjouir avec nous. » Et pour devenir aujourd'hui même comme l'une des filles des Assyriens qui se tiennent dans la demeure de Nabucodonosor. Elle se leva, mit son plus beau vêtement et toute sa parure féminine. Sa servante la précéda et étendit par terre devant Holoferne les toisons que Judith avait reçus de Bagoas pour son usage quotidien, afin qu'elle puisse s'y étendre pour manger. Judith entra et s'allongea. Le cœur d'Holoferne en fut transporté, son âme troublée, et il fut pris d'un violent désir de s'unir à elle, car depuis le jour où il l'avait vue, il guettait l'occasion de la séduire. Il lui dit « Bois donc, viens te réjouir avec nous ». Elle prit ce que lui avait préparé sa servante, puis mangea et but en face de lui. Holoferne était sous son charme. Il but du vin en très grande quantité, comme il n'en avait jamais bu en un jour depuis sa naissance. Quand il se fit tard, les serviteurs d'Holoferne se hâtèrent de partir. Judith fut laissée seule dans la tente, avec Holoferne effondrée sur son lit, noyée dans le vin. Elle dit à sa servante de se tenir prête à l'extérieur de la chambre à coucher et de guetter le moment où elle sortirait, comme chaque jour. Debout, près du lit, Judith se dit en son cœur « Seigneur, Dieu de toute puissance !» En cette heure, tourne ton regard vers les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. Car maintenant, c'est le moment de ressaisir ton héritage et de réaliser mon projet pour écraser les ennemis qui se sont dressés contre nous. Elle s'avança vers le montant du lit, proche de la tête d'Holoferne. Elle en détacha son sabre. Elle s'approcha du lit, empoigna la chevelure d'Holoferne et dit « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur, Dieu d'Israël ». Par deux fois, elle le frappa au cou de toute sa vigueur et en détacha la tête. Puis, elle fit rouler le corps en bas de la couche et détacha le voile des colonnes. Peu après, elle sortit, confia la tête d'Holoferne à sa suivante, qui la mit dans sa besace à provision, et elles sortirent toutes deux, ensemble, comme elle avait coutume de le faire pour aller prier. Les deux femmes traversèrent le camp, contournèrent le ravin, gravirent la montagne de Béthulie et parvinrent aux portes de la ville. Ouvrez, ouvrez donc la porte. Il est avec nous, Dieu, notre Dieu, pour déployer encore sa vigueur en Israël et sa force contre ses ennemis, comme il l'a fait aujourd'hui aussi. Livre de Judith.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous parlons d'un des grands, des plus grands artistes du XVIe siècle italien, le Caravage, à l'occasion de l'exposition qui a lieu au musée Jacques Marandré, Caravage à Rome, amis et ennemis, et nous verrons beaucoup d'ennemis tout à l'heure. Et nous venons d'entendre une description d'une scène épouvantable, remarquablement peinte, évidemment, par le Caravage, Judith et Holoferne, la décollation d'Holoferne par cette femme, Judith. Ça correspond, Isabelle Schmitt, puisque vous avez la gentillesse d'être avec nous pour cette émission, ainsi que vous, Pierre Curie, qui êtes le co-commissaire de l'exposition, ça correspond à une ambiance, à des anecdotes, à des faits de l'époque.
Alors, ce qui est indéniable, on n'a pas décrit de Caravage là-dessus, mais ce qui est indéniable, c'est que le tableau de Judith et Holoferne est exécuté en 1600, l'année qui suit l'exécution publique qui a marqué énormément en Rome d'une jeune fille, Beatrice Cenci, accusée de parricide. En fait, elle avait tué son père, qui était coupable d'inceste et assassinat qu'elle avait maquillé avec la complicité de son frère, de sa mère et de son amant. Enfin, tout le monde était contre le père qui avait l'air d'un odieux personnage.
Il avait violé le frère déjà en plus pour commencer.
Oui, il était violent avec sa femme, incestueux avec ses enfants. Enfin, il conjuguait tous les bénéfices et donc la famille s'est unie contre lui pour l'oxyre et a maquillé ce crime en accident, ce que la justice n'a pas cru. Et en fait, l'erreur du frère aîné a été de tuer l'amant de sa sœur, qui était complice de l'histoire et qu'il voyait comme un témoin gênant. Alors, ça a fait un deuxième meurtre et là, ça a commencé à faire beaucoup. Ouais. La justice s'est intéressée d'un peu près à ce cas. Beatrice Cenci a répondu avec morgue au juge et en fait, c'est très mal défendu et du coup, a été condamnée à mort et exécutée en public. C'était, paraît-il, une très belle jeune fille. L'histoire avait ému les Romains. Caravage assista peut-être à l'exécution et en tout cas, on a dit que ce tableau rendu public moins d'un an après l'exécution de cette jeune fille était sans doute une allusion à travers la douleur de Judith et son meurtre décidé. C'était comme si Caravage avait représenté le meurtre du père de Beatrice Cenci qui se vengeait de ses crimes.
Il y a une partie de la vie de Caravage qui est presque mise sous le signe de la décapitation, parce que il y a ce tableau fabuleux que nous avons l'immense privilège de pouvoir présenter, mais on ne peut pas présenter le célèbre autoportrait de Caravage décapité par David, hein, cette figure qui est
en Goliath,
qui est extraordinaire, qui est au palais Borghese à Rome, où Caravage se représente lui-même décapité, lui-même étant condamné à la décapitation, hein, quand il est obligé de fuir Rome en 1606.
Vous nous racontiez ça parce que on ne connaît pas, nous tous, cette histoire, parce que il part de Rome, c'est la fin de l'exposition.
Il quitte Rome précipitamment, on va dire, parce que lors d'une rixe avec des bandes rivales, en fait, il faut voir un peu ce monde très interlope des bandes d'artistes à Rome. Il y avait eu la belle exposition du petit palais de la Villa Médicis sur les bas-fonds du baroque, hein, traité ce sujet très très bien. Et en fait, donc à l'issue d'une partie de jeu de paume très très animée, ces deux bandes rivales et surtout Caravage qui avait déjà eu maille à partie avec Ranuccio Tomassoni, ces deux bandes se battent et il y a mort d'homme, puisque je crois il y a deux morts dont Ranuccio Tomassoni, deux blessés dont Caravage, et évidemment il est immédiatement recherché par la police du pape, hein, la police, et il doit fuir tout à fait incessant.
Et c'est pendant sa longue longue fuite qu'il va peindre cette décapitation de
David et Goliath. Voilà, il peint un certain nombre de tableaux entre Rome et Naples, notamment des tableaux qu'il réalise sur les terres des princes Colonna, toujours cette protection jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, cet autoportrait en décapité est tout à fait extraordinaire. Et puis, une autre implication aussi de Caravage, alors encore plus tard, là c'est à Malte,
à la Valette,
lorsqu'il peint l'immense décollation de Saint Jean-Baptiste, et c'est son seul tableau signé, où il signe avec son doigt dans le sang de Saint Jean-Baptiste qui gicle au premier plan du tableau.
Ce qui est extraordinaire,
moi,
c'est
Michel-Ange.
C'est parce qu'il signe Michelangelo Merisi,
ouais. Mais
on a l'impression que dans le sang, le nom n'est pas tout à fait terminé.
Oui.
Michelangelo, mais
voilà.
C'est comme si vraiment, c'est
extraordinaire.
Quelle idée géniale.
Mm-hmm.
Voilà, donc ça c'est absolument fantastique. Peut-être, écoutons un témoignage de l'époque sur ce fameux meurtre. Écoutons.
Il se produisit au Champ de Mars, le susdit soir de dimanche, une querelle fort notable entre deux bandes, chacune de quatre personnages. Chef de l'une, Ranuccio da Tarani, qui tomba mort sur le coup après une longue lutte, et de l'autre, Michelangelo da Caravaggio, peintre de renom à notre époque, dont il a été admis qu'il avait été blessé, mais dont on n'a cependant pas découvert où il se trouve. Quant à l'un de ses compagnons, qu'ils appellent Capitaine Antonio da Bologna, qui était soldat au Castello, il est dûment resté gravement blessé et prisonnier. Et il a été admis que la cause avait été des intérêts de jeu et 10 écus que le défunt avait gagnés au peintre.
Voilà le témoignage du meurtre de Ranuccio Tommasoni da Terni le 6 ou le 29 mai 1606, selon les sources, sur le Champ de Mars, lors d'une lutte à 4 contre 4 à la suite d'un jeu de paume. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'art et la matière, et nous parlons de ce mauvais garçon sublime qui s'appelle Michelangelo Caravaggio. Dito et le Caravaggio.
Oui.
Michelangelo Merisi, Dito et le Caravaggio, et qui est vraiment un artiste merveilleux. Mais alors là, on vient de voir son aspect terrible. D'ailleurs, vous le disiez, c'est un bagarreur. Il est tout le temps. Il représente beaucoup d'épées dans ses tableaux également.
C'est un bagarreur, c'est évident, il a un très sale caractère, il est extrêmement versatile et se met en colère et se bat énormément. On a les témoignages de différents procès ou compte-rendu de la police sur les rixes dans lesquels il a été impliqué. Néanmoins, il faut bien comprendre que presque tous le sont. Les artistes de cette époque à Rome sont pas des anges, hein. Quelqu'un comme Ribera a sans doute commandité des crimes ou des enlèvements. Valentin de Boulogne, on le retrouve noyé dans une... Vous savez, c'était une ville très violente.
Oui, dans une fontaine,
une
beuverie. Oui.
Une ville très violente. J'aime bien cette expression de Pasolini, la vita violente. C'est vraiment un univers de concurrence aussi, hein, puisque ces bandes d'artistes, plus ou moins amis ou ennemis, sont sur un marché qu'il s'agit de dominer. Donc c'était très, très, très concurrentiel et violent. Et Caravage à ce moment-là, il est dans ce milieu, il est dans cette ambiance.
Et oui,
je pense à la phrase de Roberto Longhi qui définit Caravage comme un homme au génie et au tempérament également susceptible.
Je vous remercie de citer Roberto Longhi parce que il faut que nos auditeurs sachent que on a l'air de parler d'un artiste évident qui, depuis le XVIIe siècle, est une gloire universelle. Mais vous parlez de Roberto Longhi parce que vous savez mieux que nous que Roberto Longhi a fait réapparaître ce génie, non ?
A totalement réhabilité Caravage. Enfin, alors je ne suis pas sûr qu'il ait été vraiment occulté, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a eu ses détracteurs très virulents. On connaît bien sûr la phrase de Poussin qui arrive à Rome 15 ans après la mort de Caravage et qui ne parle de lui que comme celui qui a détruit la peinture et qui se donne pour projet de faire exactement le contraire et de rétablir la grande histoire. On évoquait tout à l'heure la propension quasi cinématographique à arrêter le tableau sur une vision. Poussin va essayer de faire le contraire, de raconter des histoires qui prennent toute leur ampleur dans un tableau. Et Roberto Longhi peut-être redonne à Caravage toute son ampleur dans sa gloire picturale et la grandeur de son projet. Peut-être, enfin, il me semble qu'au 19e déjà, il était célébré par les adeptes de la peinture réaliste comme leur père ou leur précurseur, mais Longhi, quand on lit en tout cas ses écrits sur Caravage, nous réconcilie totalement avec la plénitude de son art et de son message.
Il est quand même frappant de voir que les voyageurs européens l'ont oublié. Au 18e, on n'en parle presque plus. Au 19e, à peine. Pas souvent dans des termes élogieux pour cet artiste, un artiste de cette dimension-là. J'ai toujours été frappé, par exemple, que Stendhal ne l'aime pas. Il aime Dominicain, le Guerchin, je sais pas, l'Albane.
Dans votre hors-série remarquable du Figaro, il y a tout un chapitre sur la gloire des Carache, qui sont les grands rivaux que tout le monde admire à ce moment-là.
Voilà.
Et plus, beaucoup plus que le Caravage,
bien sûr,
en fait. Alors que les tableaux qui sont à Saint-Louis des Français sont là, quoi. C'est fabuleux. Uh-huh. Et ça ne passe pas.
Oui, que Stendhal ne se soit pas pâmé dans la chapelle Cointrel.
Mais Pierre, ça continue jusqu'à Malraux. Malraux n'aime pas le Caravage. Il dit c'est ce réalisme n'amène pas comme ça au sublime. Il faudra attendre Rembrandt pour qu'il y ait.
Et pourtant, aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment récupéré cette dimension spirituelle de Caravage. C'est un grand peintre religieux.
J'aimerais bien, Pierre, que vous nous parliez de, par exemple, ce tableau Eccehomo de Caravage. C'est vraiment un tableau de toute beauté.
Oui.
Vous l'avez dans l'exposition.
Oui,
c'est le Christ à la colonne.
Voilà, c'est un tableau à trois figures, d'une iconographie très classique, puisque, tout simplement, Ponce Pilate présente le Christ à la foule. Nous sommes la foule, un bourreau à l'arrière dégage les épaules du Christ du manteau dont il est couvert. Le Christ est presque un adolescent, en fait. C'est un Christ très jeune. Le corps est très idéalisé, très beau. Et ce tableau était vraisemblablement, l'objet d'un concours avec un peintre, avec deux autres peintres, avec Pomarancio et avec Cigoli. Le Pomarancio a disparu, mais le Cigoli est toujours conservé et le Palazzo Pitti nous fait l'honneur de nous le prêter. Donc nous allons pouvoir présenter les deux tableaux côte à côte, qui sont extrêmement différents, bien sûr. Un tableau d'un peintre absolument révolutionnaire, génial, et le tableau d'un très grand peintre académique, florentin, complètement dans la tradition post-renaissance. Enfin, ça va être très intéressant. C'est un grand chef-d'œuvre aussi, le Cigoli.
Le thème est assez extraordinaire, mais ce qui est assez frappant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Isabelle Schmitt, c'est la lumière, encore une fois, du corps du Christ qui donne la sensation d'éclairer toute la scène. Et puis, il y a ce visage caricatural. Tout à l'heure, on avait dans Judith Holofernes le visage caricatural de la servante, qui était vraiment un masque de dégoût, en quelque sorte. Et là, on a Ponce Pilate qui est étrange parce qu'il est tellement. Qu'est-ce que vous en pensez, ce Ponce Pilate? Qu'est-ce que c'est cette expression? Il a une drôle d'expression.
C'est vrai, il est dans
un embarras terrible, non?
Il est dans un embarras terrible, comme dans l'Évangile, je dirais. Il est étonnamment accoutré, et ça me fait penser à une norme que j'avais découverte à propos de la peinture de Rubens, que à partir de l'hérésie protestante, on représentait souvent Pilate ou Judas habillé. Habillé comme venant d'Allemagne, ce qui était le cas de Luther. Mmh. Et donc, ce pourrait être une explication de son air un peu décalé, parce que ce béret semble assez peu romain, en fait.
Oui.
Et c'est vrai qu'il a un air tout à fait sceptique.
Et c'est un cardinal qui organiserait ce concours. Alors, est-ce que c'est une volonté du cardinal ou une volonté de Caravage de lui plaire?
C'est vrai que c'est l'éternelle question de se dire finalement quelle est la marge de manœuvre du peintre quand il a un cahier des charges aussi précis que celui qu'il avait. Mais alors, c'est sûr que cette question de la lumière, moi je m'y suis intéressée dans cet article sur la peinture religieuse, parce qu'il m'a semblé que Caravage avait une sensibilité toute particulière dans cette évocation de la passion. En fait, une différence de traitement de la lumière selon les personnages, qu'il s'agisse des bourreaux, de Judas, du Christ, et que souvent le traitement de la lumière sur le corps du Christ est extrêmement fin, et la lumière semble même émaner de son corps, sortir de ce corps, alors que pour le cas des bourreaux et de Judas, souvent la lumière est comme un spot qui vient les éclairer de façon presque brutale.
Mais Isabelle, Pierre, j'imagine que cette lumière n'est pas que de la lumière, c'est de la grâce aussi. Qu'est-ce que vous en pensez,
Pierre Curie? Oui, bien sûr. Elle est le miracle, c'est-à-dire qu'elle est l'émanation de la volonté de Dieu sur les personnages qui la reçoivent. Qu'on pense à la conversion de Saint Paul à Santa Maria del Popolo, ce centurion écartelé au pied du cheval qui est assommé par la.
Je suis content que vous ne l'ayez pas parce qu'il est beau in situ. Il est incroyable. C'est un des plus beaux tableaux de l'histoire.
Bien sûr, les tableaux des églises de Rome sont restés dans les églises.
Mais c'est vrai que ce personnage, Saint Paul renversé, les bras ouverts avec le cheval au-dessus de lui, l'ange qui fond, c'est dingue.
Oui, c'est absolument. Et puis c'était, il y a toujours cette part de provocation chez Caravage. C'est la première fois qu'on peint la croupe d'un cheval énorme dans un tableau religieux. Mais c'est quand même un moment d'une spiritualité vraiment d'une grande force.
Il y a un autre moment de la... Oui, je vous en prie.
Pardon, je crois qu'on mesure cette spiritualité assez forte dans le tableau de la conversion de Saint Paul de Santa Maria del Popolo quand on le compare avec la première version que Caravage avait faite, qui est aujourd'hui dans une collection, la collection Odescalchi Baldi, dans laquelle Saint Paul est tombé de cheval et là, il est éclairé par une lumière blanche, un peu blafarde et qui me semble, moi, assez extérieure et assez violente. Il est aveuglé, en fait, il se cache les yeux, alors que dans le tableau de Santa Maria del Popolo, il a les bras grands ouverts, il ne se cache pas du tout les yeux, il semble accueillir cette lumière. Et du coup, ça me semble synthétiser la pensée de la contre-réforme qui, en fait, unit la lumière de Platon comme source de la connaissance à la lumière de la grâce et qui, en fait, fait cette jonction qu'accueillent les personnages dans cette peinture.
Alors, il y a un autre tableau, j'aimerais bien qu'on en dise un mot, parce que si on parle du miracle de la lumière, là, c'est aussi une apparition, c'est les pèlerins d'Emmaüs.
Oui, nous montrons la version de Brera, de la Pinacothèque de Brera à Milan, puisqu'il y a deux versions très importantes, celle de la National Gallery de Londres, qui est peinte quelques années avant, et ce tableau extraordinaire, peint pendant la fuite, ou juste après, ou juste avant, ou peut-être même à cheval entre Rome et les terres des Colonna. Elle a appartenu à un collectionneur très important de Caravage, de son temps, qui s'appelait Costa, et c'est un tableau extrêmement émouvant, enfin, même qui confine au tragique, en fait, hein, qui est une œuvre d'une puissance spirituelle et plastique inégalable.
C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un grand rectangle noir, quelques figures à peine caressées par la lumière, et on a l'impression qu'ils viennent avec stupeur, de comprendre qu'ils ont affaire ou à un spectre ou à un vivant, mais en tout cas, le personnage dont ils parlaient et qu'ils pensaient mort. Écoutons peut-être le récit de Luc, chapitre 24.
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Nous. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre,
Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Évangile de Luc.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de ce génie, le Caravage, et nous venons d'évoquer un tableau extraordinaire qui aura une postérité considérable jusque chez Rembrandt, c'est Les Pèlerins d'Emmaüs. Et je suis avec Isabelle Schmitt. Et Pierre, Les Pèlerins d'Emmaüs aura une grande...
Oui, alors ce tableau-là, parmi tant d'autres, c'est-à-dire qu'il y a une révolution caravagesque qui va d'abord être immédiatement perçue par les artistes autour de lui, les commanditaires, les collectionneurs. Tout de suite, le petit monde des peintres romains se met à faire du Caravage, plus ou moins bien, mais avec, pour certains, énormément de talent. Gentileschi, Manfredi, nous montrons des tableaux de ces très proches de Caravage. Mais je dirais, au-delà du XVIIe siècle, au-delà de ce caravagisme, la leçon artistique de Caravage, c'est une leçon de force, de puissance, de spiritualité, et je dirais d'implication de l'artiste, de l'implication personnelle dans son œuvre. C'est quelque chose qui n'a paraissait peut-être pas vraiment avant lui, sauf peut-être chez Michel-Ange, justement, cette imbrication étroite entre la personnalité et l'art, en fait.
Est-ce que vous voulez dire que il ne se contente pas de faire un sublime tableau, il y a un lien avec sa vie propre, un lien presque charnel avec sa vie propre, avec ses inquiétudes, ses...
Il a le génie de pouvoir signifier, montrer des choses au-delà des images. Je dirais que c'est un peintre métaphysique. Il arrive à faire passer des émotions de 300, 400 ans après les avoir peint ses œuvres. C'est extraordinaire. Il a un pouvoir de conviction spirituelle. Je pense qu'il était très religieux. Il avait un oncle prêtre et un frère prêtre. Il a grandi dans cette Milan, dans ce Milan de la contre-réforme, des Borromées. Et je pense qu'il était très religieux, contrairement à cette légende noire qui s'attache à lui.
C'est pas parce qu'il était religieux qu'il ne serait pas pêcheur.
Voilà. De toute façon, je crois qu'il est aussi religieux qu'il est pêcheur.
Isabelle Schmitt, il y a un tableau, puisque on parle des grands tableaux religieux, qui vous touche particulièrement, je crois, c'est l'ensevelissement du Christ.
Alors, ils me touchent tous, mais celui-là, oui, beaucoup, parce
que... Vous pouvez nous le dire, nous le décrire.
Il est, je pense, connu pour cette dynamique étonnante entre le corps du Christ qui est en fait dans les bras de Saint Jean et puis sans doute Joseph d'Arimathie, donc des disciples qui sont en train de le coucher sur la pierre de son tombeau, et il le porte dans les bras. Au-dessus, Marie Madeleine et la Vierge Marie se penchent sur lui dans une douleur muette et assez discrète. Et derrière, Marie Cléophas, une autre des saintes femmes, a les bras grands ouverts, levés vers le ciel, et un regard levé vers le ciel. C'est paradoxalement, je vais vous expliquer pourquoi, le personnage qui nous semble le plus proche peut-être en humanité, parce que sans doute on réagirait pareil si on recevait le corps supplicié d'un de nos proches. Elle exprime sa douleur. Or, en fait, ce geste qui nous semble finalement le plus actuel est en réalité un geste calqué d'un cimetière paléo-chrétien du motif de Laurente. Laurente qui était peinte sur ces cimetières paléo-chrétiens et dont les cercles de la contre-réforme avaient fait faire des relevés pour justement inspirer aux peintres une iconographie proche des origines de l'Église. Ça, c'était très présent dans le courant de l'oratoire et de Saint-Philippe Néri. Et donc, ce tableau me touche parce que sa composition est à la fois très dynamique, alors qu'il s'agit d'un tableau de mortuaire, et il exprime aussi peut-être tous les stades de réaction face à la souffrance et à la mort, et d'une façon qui semble extrêmement naturelle, alors qu'elle est extrêmement travaillée, puisque c'est un tableau vertical. Tous les personnages sont très resserrés. Je suis pas sûr que dans la vraie vie et dans l'espace on se mette comme ça si on avait à transporter un un cadavre. Et en plus, le bras du Christ mort touche la pierre de son tombeau. Et cela me fait penser à la phrase de l'évangile, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire sur laquelle on va édifier l'église. Donc j'adhère totalement à ce qu'a dit Pierre Curie. Je pense moi aussi que Caravage était un peintre très religieux et qu'il y a beaucoup de métaphysique dans sa peinture. Il y avait un tableau aussi qui me touche énormément, c'est le Christ à la colonne qu'il a peint à Naples et qui est aujourd'hui à Rouen, qui unit dans une même lumière le bourreau et les bourreaux et le Christ, et notamment le bourreau de droite a la même expression que la tête du Goliath dans laquelle il s'est représenté, comme un air désolé de celui qui connaît la lumière mais qui ne la choisit pas.
En tout cas, cette mise au tombeau du Vatican, c'est sans doute un de ses plus grands tableaux religieux avec la mort de la Vierge du Louvre, qu'il faudra aller voir.
Qui a été décroché après avoir été accroché au bout de 8 jours.
Mais tous deux ont un rapport avec Rubens, c'est très intéressant. Rubens a copié le tableau du Vatican, c'est une petite peinture qui se trouve aujourd'hui au Canada, et également c'est Rubens qui, après que cette mort de la Vierge a été rejetée par ses commanditaires, on a recommandé l'achat au duc de Mantoue. Donc là, le tableau La mort de la Vierge partira à Mantoue, sera ensuite acheté par Charles Ier d'Angleterre, puis après la décollation de Charles Ier d'Angleterre, elle passera dans la collection de Jabac, puis dans la collection de Louis XIV. C'est drôle ce rapport de Rubens à Caravage, donc c'est son contemporain. Absolument. Il l'a peut-être même croisé à Rome. Et
il a juste une vie beaucoup plus longue puisque lui il meurt en 1677.
Voilà, bien sûr.
Près,
il rentre à Anvers en 1608, mais il reste assez longuement en Italie. Et l'étincelle du début du baroque, c'est-à-dire que l'interprétation que Rubens va faire des grands modèles italiens et de Caravage tout particulièrement, eh bien c'est le point de départ de son baroque, et les deux grands tableaux de la cathédrale d'Anvers, pour une large part, sortent de ces tableaux de Caravage.
Je vous remercie, Pierre, de parler de du mot baroque, parce que c'est effectivement ce qui est en train de se fonder avec le Caravage, c'est le baroque. On le retrouvera dans l'architecture quelques années plus tard avec Borromini et d'autres. Isabelle, vous avez fait un travail absolument considérable avec tous ces auteurs. Merci. Qui ont travaillé profondément. Merci pour votre passion pour le Caravage. Il vient donc de s'échapper de Rome. Il va mourir dans quelques années. C'est une carrière tellement courte. Mais c'est ça que vous racontez dans votre exposition.
C'est fulgurant.
Avec combien de tableaux?
Selon les auteurs, les spécialistes. Alors nous, notre exposition présente 10 tableaux de Caravage
une bonne vingtaine de tableaux
de ses amis et de ses ennemis, parce qu'on a vraiment voulu présenter un peu ce milieu de ces artistes qui l'ont connu, croisé vraiment à Rome. Mais nous nous arrêtons pendant cette fuite. La dernière salle de l'exposition présente 4 tableaux peints à ce moment-là, juste entre Rome et Naples.
Merci Pierre Curie, merci Isabelle Schmitt.
Merci beaucoup.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec le Figaro hors série. Aujourd'hui, j'ai reçu l'historien Pierre Curie et Isabelle Schmitt, rédactrice en chef donc pour ce hors série assez exceptionnel du Figaro sur le Caravage, à l'occasion de cette fantastique exposition Caravage à Rome, amis et ennemis, au musée Jacques Marandré. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Johanna Nizar. Attaché de production, Séam Boutata. Prise de son, Alain Joubert. Réalisation, Franck Linin. Merci Franck.